I stayed up apologizing and apologizing to George Floyd for not doing more and not physically interacting and not saving his life.
Ça, Raphaël, c'est une femme qui a été témoin de la mort de George Floyd et qui a témoigné aujourd'hui au tribunal en disant, écoutez, je suis resté debout toute la nuit cette journée-là et je me suis excusé à M. Floyd.
Pour ne pas avoir interagi davantage et avoir fait plus pour sauver sa vie. Fait que ça te montre une chose, cette deuxième journée-là du procès de Derek Chauvin, c'est que évidemment qu'il y a eu mort d'homme, mais il y a aussi eu une foule de gens marqués à vie parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont vécu cette journée-là et dans toutes les journées depuis. Fait que c'était remarquable pour ça, cette deuxième journée-là, et aussi pour ceci. Il y a deux questions pour moi, je te le disais hier, là, au cœur de ce procès-là. La première question, tu l'as toi-même soulevée lors de la chronique d'hier, c'est-à-dire, est-ce que ça peut être légitime, de façon concevable, pour un policier d'utiliser la technique que Derek Chauvin a utilisée pour maîtriser un suspect au sol? Et pour démonter ça, ben, les procureurs ont mis sur deux arguments. Le premier argument, je te l'ai donné hier, c'est la question du temps. C'est quand ça dure 8 minutes, là, on est ailleurs. Mais le deuxième argument, il est vraiment devenu clair aujourd'hui. Et il est très intéressant. Il y a un témoin, il y a un premier témoin qui l'a mis sur la table hier, il y a un deuxième témoin qui l'a ramené sur la table aujourd'hui. C'est-à-dire que Chauvin aurait accentué la pression qu'il mettait sur le cou de George Floyd une fois qu'il était maîtrisé. Fait que si l'objectif, c'est seulement de le maîtriser, Si c'est légitime d'avoir utilisé cette technique-là parce qu'il était tellement difficile à maîtriser, pourquoi dans ce cas-là est-ce que tu augmentes la pression une fois qu'il est maîtrisé? Garder la pression peut-être à la limite, OK, mais pourquoi l'accentuer? Donc, c'était très habile. Deuxième question fondamentale pour moi qui va déterminer l'issue de ce procès-là, c'est, en fait, c'est encore plus fondamental que la première, c'est la cause du décès. Quelle est la cause du décès? Puis là, je comprends qu'il y a bien des gens qui nous entendent présentement qui vont dire, voyons de quoi ils parlent. Évidemment que c'est le genou sur le cou. C'est ça la cause. Or, ce que la défense de Chauvin essaye de créer, c'est un doute. Rappelle-toi ce que je te disais hier, un doute raisonnable. Tout ce que ça prend, c'est un membre du jury qui a un doute raisonnable par rapport à la cause. Et donc, on va miser sur le fait que dans l'autopsie officielle, il y avait des drogues dures, méthamphétamine, fentanyl dans le sang de George Floyd, et essayer de faire valoir que, ben, sais-tu quoi, peut-être que c'est un arrêt cardiaque qui a été causé par ça. Mais où la défense, là aussi, va avoir de la difficulté, je crois, c'est avec la fameuse vidéo. Parce que tu vois l'évolution du langage corporel de George Floyd entre le début et la fin du vidéo. À partir du moment où il se fait mettre le genou dans le cou et la fin, écoute, le début et la fin ont rien à voir un avec l'autre. Fait que si c'est la drogue qui a causé la mort, je vais te le dire comme ceci, c'est quand même drôlement timé. Fait que c'est... Encore une fois, c'est vraiment fascinant ce qu'on a comme débat, deuxième journée, à la hauteur de la première.
OK. On a des nouvelles aussi de la principale complice, appelons ça comme ça, dans toute la saga du financier pédophile Jeffrey Epstein.
Oui, écoute, je ne sais pas pour toi, là, comme journaliste, s'il y a certaines histoires que tu as couvertes au fil des ans qui te font bouillir le sang plus que d'autres. Là. Personnellement, celle de Jeffrey Epstein est assez dure à battre. D'abord pour la nature des crimes, puis surtout pour le manque total de justice, d'imputabilité qu'il y a eu. Et là, s'il y a une bonne nouvelle, entre guillemets, là-dedans, peut-être dans tout ça, c'est que sa complice, Ghislaine Maxwell, là, elle vient d'être formellement inculpée pour trafic sexuel de mineurs. Et je doute fortement qu'elle s'en sorte aussi facilement que son ancien complice. Et ce qui est tellement tordu dans cette affaire-là, c'est qu'à peu près toutes les victimes de Jeffrey Epstein ont la même histoire. C'est-à-dire que parce qu'elles étaient jeunes et parce que, dans presque tous les cas, elles ne connaissaient pas Epstein à la base, la façon, la stratégie qu'il utilisait pour les hameçonner, si on veut en premier lieu, c'était avec cette femme-là, avec Ghislaine Maxwell. Disons-le très clairement, parce que c'était une femme. Elle servait, si on veut, d'espèce de caution implicite. Donc, elle approchait les victimes, créait un lien de confiance, puis après, elle les présentait à Epstein. Et donc là, Pat, ce dont on parle, ce dont elle est accusée formellement, c'est d'avoir recruté, écoute bien ceci, recruté une adolescente de 14 ans pour qu'elle-même, après coup, recrute d'autres adolescentes pour faire... Je ne rentrerai pas dans tous les détails.
C'était elle la rabatteuse.
C'est ça. Écoute, si on le dit de façon très, très, très prudente, c'est ce qu'on allègue, que c'était elle, effectivement. Fait que on s'entend, là, elle n'est pas sortie de prison de sitôt. Puis tu sais, quand on se parle de procès très médiatisé, très attendu, crois-moi que ça va en être tout un quand ça va arriver.
À demain, Raphaël.
À demain.